Thierry Lenz, nous allons parler avec vous de Bonaparte, et plus exactement de la fin de l'empereur. Bonaparte n'est plus, c'est aux éditions Perrin, le 5 mai 1821 à 17h40, ça c'est précis, on le sait, donc Bonaparte s'éteint.
Oui, alors vous l'appelez Bonaparte comme les Anglais, hein, puisque les Anglais ne lui refusaient son titre d'empereur à Sainte-Hélène. Et en fait, le nom de Bonaparte était le seul qui lui était reconnu sur l'île. Et lorsque la nouvelle de sa mort est arrivée en Europe, c'est en effet comme ça qu'on a annoncé la chose au public. C'est Bonaparte n'est plus, d'où le titre du livre.
Alors on revient un peu sur justement la captivité de Bonaparte. Il est resté combien de temps exactement ?
Il est resté pas loin de 6 ans. Hein, puisqu'il arrive, on va dire, en octobre 1815, et il meurt donc le 5 mai 1821. On l'a logé d'abord dans un tout petit pavillon, dans un endroit très enchanteur, avec une belle végétation et une certaine chaleur. Et puis ensuite, on l'a logé dans une maison qui s'appelle la maison de Longwood, du nom du lieu dit. Et là, ça a été beaucoup moins agréable, parce que Sainte-Hélène est une île tropicale, un peu comme les Canaries, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie où la température est constante, toujours bonne, et puis il y a ce plateau sur lequel il y a du vent, où il y a 10 degrés d'écart par rapport à la vallée, et c'est là qu'on avait choisi de le loger parce que c'était plus facile à surveiller.
Alors on sait que Bonaparte, Napoléon, avait des problèmes de santé aussi. Est-ce qu'il avait son médecin sur place? Il avait quelques compagnons autour de lui? Bien évidemment, la distance faisait que peut-être les soins n'étaient pas non plus idéaux.
Oui, alors il a été, on va dire, globalement mal soigné à la fin. D'abord parce que son médecin a titré, le premier médecin qui était un Anglais qui s'appelait Barry O'Meara, a été renvoyé de l'île par le gouverneur parce que O'Meara prétendait que la maladie de Napoléon était due au climat et aux conditions de détention, et ça le gouverneur de Sainte-Hélène, Hudson Law, ne le supportait pas, donc on l'a renvoyé et Napoléon est resté pratiquement un an sans médecin. Il refusait d'être ausculté par des médecins anglais alors que O'Meara l'était, mais enfin après il a refusé, et donc sa mère lui a envoyé un médecin qui s'appelle le docteur Antomarchi, mais qui n'était absolument pas fait pour soigner le type de maladie qu'avait Napoléon. Donc il a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire pas grand-chose.
Alors donc ce 5 mai 1821, Napoléon meurt, et c'est là que tout commence aussi, parce que est-il mort d'une mort naturelle? A-t-il été empoisonné?
Oui, alors ça, si vous voulez, j'ai
on
beaucoup...
On en parle encore aujourd'hui.
Oui, on m'a beaucoup questionné, bien sûr, sur ce sujet. Je crois que, en fait, on a une documentation qui permet de dire de quoi est mort Napoléon. Hein. Il est mort d'un ulcère perforé bouché à l'estomac, donc bouché par le foie, en voie de cancérisation. Et puis surtout, les causes directes de la mort sont une très lente hémorragie dans l'estomac qui fait qu'il a été très, très affaibli. Et puis, à un moment, quand on a autant de maladies, on finit généralement par mourir. Alors, la thèse de l'empoisonnement... Immédiatement après sa mort, on s'est dit, ah ben un homme de 51 ans qui meurt aussi subitement, parce qu'on ignorait toutes ces maladies évidemment, ça doit être un empoisonnement. Mais en réalité, on n'a aucun élément pour prouver un empoisonnement, alors qu'on a énormément d'éléments pour prouver une mort naturelle.
Thierry Lenz, dans ce livre, donc Bonaparte n'est plus aux éditions Perrin. Bien sûr, la mort de Napoléon ou de Bonaparte pour les Anglais, comme vous disiez tout à l'heure, va se répandre, mais va pas se répandre comme les réseaux sociaux le font aujourd'hui. Ça va être assez long.
Oui, ça va être assez long parce que Sainte-Hélène se trouve quand même un point très très éloigné de toute terre habitée, hein, 2000 km de l'Afrique, 2000 km de l'Amérique du Sud, et la nouvelle va mettre... La nouvelle va mettre 2 mois pour arriver en Europe puisqu'elle est emmenée par bateau et qu'on est à 8-9 000 km de l'Angleterre. Donc il va falloir attendre 2 mois pour que la nouvelle soit connue. Il n'y a pas de BFM ou d'LCI à cette époque-là.
Alors on s'attend à ce que cette nouvelle fasse le buzz, comme on dit aujourd'hui. Et finalement non, à part les aficionados hein, de Bonaparte, le clan rapproché.
Oui, c'est ça. En fait, j'étais en train d'écrire ce livre au moment où Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson sont morts. Et si vous voulez, je me suis dit, tiens, c'est assez amusant d'essayer de faire une comparaison, enfin qui n'est pas raison évidemment, mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. D'abord parce que les moyens d'information étaient faibles, peu de journaux, peu lus, les nouvelles qui vont au pas des chevaux, éventuellement on en parle un peu à la messe, etc. Donc ça a mis beaucoup de temps à se répandre, et alors que les gouvernements pensaient que ça provoquerait créé un choc dans l'opinion. La réalité, c'est que ça n'en a pas provoqué du tout, parce que tout simplement l'Europe et la France avaient d'autres problèmes à l'époque, des problèmes politiques, des problèmes économiques. Et donc la mort de Napoléon est arrivée. Il y a un des témoins qui dit la nouvelle d'un chien mort n'aurait pas fait plus d'effet.
Pour dire aussi que Napoléon, pour le peuple a beaucoup souffert des guerres napoléoniennes et puis au fur et à mesure des années, parce que Napoléon, il y a la grandeur de Napoléon, l'homme et puis l'homme de loi, l'homme qui a créé, qui a fait la première République, mais il y a quand même aussi à côté côté moins plus sombre.
Oui, bien sûr, c'est incontestable. On est au moment de la mort de Napoléon, on est vraiment en plein succès de ce qu'on a appelé la légende noire, c'est-à-dire que le gouvernement royal qui l'a remplacé a tout fait pour que, effectivement, les citoyens, les Français, les sujets de Louis XVIII considèrent que enfin on avait une monarchie paternelle, pacifique, les guerres étaient terminées. Et c'est vrai que après la défaite de Waterloo, la France a été occupée pendant 3 ans, hein, il faut pas l'oublier. Et comme on est en pleine légende noire, les gens, au fond, avaient un peu oublié Napoléon à ce moment-là. Et c'est beaucoup plus tard que la légende va exploser, mais alors là, comme une bombe.
Alors Napoléon, bien sûr, reste toujours présent. On vit encore quand même au quotidien sous Napoléon, pour bon nombre de textes, de lois notamment. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore, je dirais, un clan Napoléon? Il y a une famille Napoléon qui existe, mais est-ce qu'il y a toujours un clan Napoléon? Est-ce qu'il y a un culte Napoléon aussi?
Ah oui, alors les deux choses sont différentes. Il y a effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui toujours la famille impériale, donc qui est représentée par des descendants de Jérôme Bonaparte. Donc aujourd'hui, il y a formellement un prince Napoléon. Hein. Simplement, la famille des Napoléons a renoncé à toute prétention politique en 1940, puisque le prince Napoléon de l'époque, pour ne pas être récupéré par le régime de Vichy, et parce qu'il était résistant aussi, avait dissous toutes les organisations bonapartistes. Alors, quant au culte de Napoléon, il existe encore parce qu'il y a des associations, parce qu'il y a des sociétés de reconstitution, et puis il y a un intérêt historique très très fort pour cette période, qui est quand même une période assez passionnante, entre deux temps, si vous voulez, le temps de l'Ancien Régime et le temps de la France moderne.
Merci Thierry Lenz. Donc je rappelle le titre de ce livre, Bonaparte n'est plus, aux éditions Perrin.
Merci.